Bienvenue à cette édition du jeudi 28 novembre du balado des apatrides anonymes sur choc.ca. Avant-dernier de 2024, Simon au micro avec vous pour animer cette émission régulière avec mes deux habituels comparses Mathieu et Marie-Ève. Bonjour, bonjour.
Bonsoir, Simon.
Je reviens, bonsoir à vous.
Je vous reviens avec vos sujets dans une petite seconde. Je vais expliquer c'est quoi ce podcast des apatrides. C'est un observatoire de la haine ethno-religio-raciale, comme on en voit par exemple à l'Assemblée nationale du Québec, parce que oui, ça arrive, ainsi que dans d'autres capitales, dans les médias, dans les politiques sécuritaires, de manière systémique ou ordinaire. On essaie de suivre les mouvements migratoires un peu partout, ici comme ailleurs, ce qui les provoque, l'extractivisme, la haine, la désinformation, les régimes autoritaires, les changements climatiques, entre autres, et on essaie de comprendre leur dynamique. C'est pourquoi, Mathieu, toi, tu nous as préparé un premier segment sur les enjeux récents en immigration au Québec-Canada.
Bien sûr.
Avec des thèmes particuliers.
Le mot-clé, c'est Mark Miller.
Oh, on va tricoter autour de Marc et un deuxième bloc plus tard sur les actualités d'Amérique latine.
Exactement.
Et un pays en particulier?
Mexique, Salvador, Uruguay, Pérou.
OK, donc on se promène à travers l'Amérique latine.
Exactement.
Marie-Ève, de ton côté, tu t'es penchée sur deux sujets aussi. D'abord, un spécial bavure policière, non pas à Repentigny ou Thunder Bay?
Non, au Nunavik plus spécifiquement, puis je vous amène un petit peu en Ontario.
Et ensuite, un autre segment en Angleterre,
oui,
au Royaume-Uni.
Oui, de l'autre côté de l'Atlantique.
Plus large. Parfait, j'ai hâte de vous entendre. J'ajouterai quelques nouvelles brèves ici et là, en plus d'un agenda avec toutes sortes de suggestions, d'activités et de ressources, et quelques nouveautés musicales, principalement locales. Donc voilà, c'est parti pour votre dose bi-hebdomadaire de 70 minutes des apatrides. On retrouve Mathieu dans quelques secondes. Donc, Mark Miller va bien?
Je pense qu'il est en grande dépression.
Oui,
je pense que ça va avec ce qu'il dit puis ce qu'il fait. C'est la descente vers le sous-sol. Premièrement, écoute, on le savait déjà, Simon en avait parlé à l'émission, mais le 13 novembre dernier, Mark Miller a fermé la porte définitivement à un plan de régularisation des sans-papiers avant les prochaines élections. Je le cite, cela ne veut pas dire que dans certaines zones où nous avons besoin d'une main-d'œuvre essentielle, il n'y aura pas de possibilité pour une sorte de régularisation à plus petite échelle.
Donc, il faut être utile à l'économie.
Oui, puis après, du même souffle, il va dire, il est clair que l'ère de l'approvisionnement illimité en main-d'œuvre étrangère à bas coût est terminée. Ah, c'est un peu contradictoire quand même. sinon aussi, on l'avait moins vu, mais le fédéral a serré la vis aux étudiants étrangers, encore une fois, qui s'inscrivent dans des formations professionnelles de niveau secondaire et cégep au niveau technique.
Ouais.
Avec les nouvelles règles, de nombreux programmes d'études ne leur permettront plus d'obtenir un permis de travail après leur diplôme. Cette mesure, passée sous le radar, s'inscrit dans les efforts que multiplie le gouvernement Trudeau pour réduire le nombre d'immigrants temporaires. L'objectif, je le rappelle, des baisses de 445 000 en 2025 et aussi en 2026 pour l'ensemble des immigrants temporaires. Les nouvelles restrictions font passer de 191 à 75 le nombre de programmes d'études professionnelles admissibles au permis de travail post-diplôme. Donc
c'est des diminutions de l'ordre de... C'est difficile à dire.
De 70 % à peu près.
Ah, quand
là.
Même.
Oui, tout à fait. Oui, si je fais le calcul, là. Oui, tout à fait, c'est assez important. Oui, 191 à 75. Mark Miller a annoncé cette semaine que d'autres réformes des systèmes d'immigration d'asile du Canada seront proposées dans les semaines à venir. Les statistiques fournies montrent que le temps d'attente moyen pour traiter les demandes d'asile de statut de réfugié au mois de septembre est d'environ 44 mois actuellement.
44 mois au mois de septembre. Mon Dieu, 6 ans.
4 ans.
4 ans, merci.
Calcul
mental, je te laisse tes
statistiques. Je continue avec des chiffres. Miller a expliqué devant le comité de l'immigration de la Chambre des communes que le système d'asile et de statut de réfugié ne fonctionne pas comme il le devrait en raison du volume et de l'inefficacité.
Ah bon?
Je le cite, ce n'est pas un droit de devenir résident permanent, ce n'est pas un droit de devenir citoyen canadien, sinon on en dilue la valeur. C'est quelque chose en quoi je crois fermement.
Ah, c'est une belle profession, belle profession de foi nationaliste.
Oui, oui, au Canada. Côté chiffres, toujours, il y avait près de 250 000 demandes d'asile qui étaient en attente de traitement à la fin du mois de septembre. Et à ce moment-là, 48 000 demandes avaient été traitées depuis le début de l'année 2024. Donc, 44 mois, 250 000 demandes en attente. Donc, voilà la pression que M. Meilleux ressent.
Demande-tu de faire un calcul?
Non, s'il te plaît. Toujours au fédéral, plus de 9 mois après le lancement du programme fédéral de regroupement familial pour les réfugiés de Gaza, seuls 334 Palestiniens ont pu bénéficier des 5000 visas de résident temporaire, le VRT, promis par le Canada. Pour expliquer ce chiffre famélique, le ministère de l'Immigration pointe la fermeture du point de passage de Rafah en mai dernier, qui empêche désormais tout demandeur de sortir de la bande de Gaza. Mais selon l'expérience de Palestiniens que Le Devoir a rencontré pour cet article en Égypte, le faible nombre d'élus serait plutôt lié à la lourdeur du processus de sélection. Selon les chiffres du ministère, 4245 demandes avaient été acceptées au 5 octobre dernier. De ce nombre, 733 personnes ayant quitté Gaza par leurs propres moyens ont pu déposer leurs demandes et ont été autorisées à venir au Canada. Et parmi elles, seulement 334, comme je disais, sont arrivées effectivement au Canada, soit 8% des demandes déposées. Le processus, où est-ce qu'il achoppe, où c'est au niveau de la lourdeur, c'est qu'une fois, il faut que les gens se rendent en Égypte, et là, doivent faire leurs empreintes, les trucs biométriques.
Ça, doivent reconstituer. Pratiquement complet leur
c'est
dossier.
C'est ça. Hein. C'est là que c'est long avec l'ambassade canadienne.
Et même démontrer leur identité, ce qui n'est pas toujours nécessairement possible.
Exactement. Fait que ça bloque à ce niveau-là. Fait que le 8% des gens qui ont été acceptés qui sont vraiment au Canada actuellement. Au niveau provincial, petite nouvelle que vous avez peut-être entendue, le gouvernement du Québec prolongera la couverture des réfugiés ukrainiens par le régime d'assurance maladie, pardon, après février 2025, a assuré le ministre Dubé. On savait que ça finissait officiellement en février, puis ouais. ça niaisait. Finalement, ils ont décidé de le prolonger sous les pressions. Depuis le début du conflit, je rappelle que 300 000 Ukrainiens ont trouvé refuge au Canada avec l'autorisation de voyage d'urgence Canada-Ukraine. Parmi eux, 30 000 ont choisi de s'installer au Québec. Et je termine avec une suggestion de lecture, un article de Pivot.Québec qui s'appelle « Déporté à cause d'une coquille sur le site web d'Immigration Canada ». Je vous lis un extrait. Après 30 ans au Canada, Kevin n'a jamais eu la citoyenneté canadienne. Arrivé au Québec à l'âge de 3 ans, il est passé entre les mains de la DPJ. Dès son 4e anniversaire, il a fait des familles d'accueil, centre jeunesse, puis la prison. Il y a un mois, on avait entendu parler, SSF en avait parlé, le gouvernement canadien a procédé à sa déportation en Haïti. Mais une politique mise en place par le fédéral visant justement à éviter ce genre de drame n'a pas été mise en œuvre puisque les avocats en droit de l'immigration avaient été informés qu'elle ne s'appliquait pas au Québec. C'est que depuis le début de l'année, depuis janvier, les gens qui ont été enfants sous la protection de la jeunesse dans n'importe quelle province, c'est au système à faire les demandes de résidence et de citoyenneté. Et si ça n'a pas été fait, doivent l'avoir automatiquement, normalement, même s'ils sont allés en prison ou quoi que ce soit. Et donc, avant 19 ans et... les gens qui sont arrivés avant 19 ans, finalement, ici, peuvent avoir la citoyenneté à peu près automatiquement si les services de protection de la jeunesse font la demande. Et là, il y avait sur le site web de Immigration Canada, c'était écrit que toutes les provinces étaient dans le coup, sauf le Québec. C'était une erreur, c'était une coquille. En tout cas, c'est un peu ridicule. Fait que finalement, cette personne-là, Kevin, a donc été déportée il y a un mois.
Donc, cette personne-là était au Québec?
Était au Québec, oui. Okay, depuis l'âge de 3 ans, oui. Oui, tout à fait, oui.
Eh bien, une belle bourde bureaucratique.
Exactement.
On voit un peu assez souvent, malheureusement.
Oui, c'est triste, oui.
Merci beaucoup, Mathieu. Avant de passer en musique, deux nouvelles brèves en faisant un détour par les États-Unis où la nation Gwich'in, dont le territoire s'étend à la fois en Alaska, au Yukon et dans les territoires du Nord-Ouest, s'inquiète du retour de Trump. Ils ne sont pas les seuls, les républicains au pouvoir, surtout pour la réserve faunique nationale de l'Arctique et du caribou de la Porcupine ou la Porcupine. La nation Gwich'in se bat depuis des années pour préserver les environnements vitaux de ce caribou unique. En ce qui nous concerne aujourd'hui, dans les territoires situés dans la portion états-unienne, en Alaska, où les femelles donnent naissance à leurs petits et les élèvent, une grande zone naturelle où Donald Trump avait essayé, lors de son premier mandat, de lancer l'exploitation pétrolière. Il n'était pas vraiment arrivé, il avait manqué de temps, il a donc répété son intention d'aller de l'avant lors de ce second mandat qui va commencer en janvier. Le refuge faunique national de l'Arctique est pourtant une zone protégée 77 000 km², plus grand que le Nouveau-Brunswick. C'est la plus grande zone protégée des États-Unis, mais le niveau de protection n'est pas suffisant pour empêcher le Congrès d'adopter des amendements qui pourraient permettre, par exemple, d'établir un plan de vente, de division, de concession et de leur vente. Un tel amendement avait été adopté lors du premier mandat de Trump, mais avant de pouvoir être mis en œuvre, c'est parfois long, il avait été annulé par décret sous l'administration Biden. Le peuple Gwich'in milite donc pour un niveau de protection plus fort et surtout permanent, mais disons que le combat ne sera pas très facile dans les années à venir. Deuxième brève, on se déplace à l'autre frontière Canada-États-Unis, plus précisément entre le Manitoba et le Minnesota. Décision judiciaire très attendue de la part d'un jury dans un tribunal local au Minnesota. Vous vous rappelez peut-être une famille indienne dont les quatre membres, les deux parents et leurs enfants de 11 et 3 ans, qui sont morts de froid du côté canadien en janvier 2022. Mm-hmm. Ils cherchaient à entrer aux États-Unis où une camionnette devait les attendre quelques centaines de mètres après la frontière. Si cette camionnette n'était pas tombée dans un fossé, faute de visibilité à cause de la température. Les deux adultes et les deux enfants s'étaient fait déposer par un premier véhicule du côté canadien, non loin de la frontière, en pleine nuit avec de la poudrerie. Ils se sont fait dire de marcher en ligne droite jusqu'à tomber sur ce deuxième véhicule qui finalement n'y était pas plus que pogné dans un fossé. Les deux individus qui ont planifié ce passage clandestin en pleine tempête avec une température ressentie de moins 35 degrés Celsius sont donc reconnus coupables de 4 chefs d'accusation pour trafic de migrants et complot. Par contre, ce qui est intéressant dans le verdict, ce sont plutôt les commentaires du juge qui qualifie de complètement immoraux les comportements des deux passeurs qui savent très bien qu'avec une météo d'une telle violence, c'est pas une nouvelle vie qu'ils promettent à cette pauvre famille, mais c'est plutôt une condamnation à mort. Mais les accusations dans ce procès portaient vraiment sur l'aspect trafic humain et non sur les risques ou la cruauté des conditions dans lesquelles ça s'est produit. On va aller en musique. Au retour, Marie-Ève nous rejoint et nous amène au Nunavik. Donc, entre-temps, on va écouter un extrait du récent court album de quatre pièces « Mulchulation 2 », qui est une collaboration entre les musiciens du groupe Population 2 et Rose Cormier du groupe Hardcore Mulch. Ou Mulch. Ça donne un résultat plutôt pesant ou, selon les mots des artistes eux-mêmes, « pas reposant » ou encore « de créatures vivant dans les égouts de Montréal, un marcheur de nuit se nourrissant à l'énergie sonique pure ». On ne va pas les contredire. Alors, sur choc.ca, aux Apatrides Anonymes, on écoute Mulchulation 2, la pièce « Déclin soudain ».
Oh,
en collaboration avec Population 2, la pièce « Déclin soudain ». On passe tout de suite à Marie-Ève. On s'en va au Nunavik.
Où dans la nuit, si vous vous rappelez bien, dans la nuit du 3 au 4 novembre, un autre jeune homme autochtone, Joshua Papigaktuk, est mort sous les balles de policiers dans la ville de Saluit au Nunavik. Son frère jumeau, lui, Garnett, a été gravement blessé et a dû être évacué vers un hôpital à Montréal. Pour l'instant, son état est toujours stable, il est hors de danger.
Okay.
Une enquête du Bureau des enquêtes indépendantes, le fameux BEI, a évidemment été ouverte, puis la SQ, de son côté, a déclenché une enquête criminelle. Les policiers auraient répondu à un appel concernant une personne qui voulait conduire avec des facultés affaiblies. Une fois sur place, un affrontement aurait eu lieu entre les policiers et les deux hommes. Un policier aurait alors fait feu en direction d'une des personnes et lorsque l'affrontement s'est poursuivi avec le frère de la victime, le policier aurait fait feu à bout portant à direction de la deuxième personne. Pour l'instant, le BEI indique que les policiers auraient d'abord utilisé le taser et du bof de Cayenne pour maîtriser les deux personnes sans succès. La mort de Joshua Papigaktuk a évidemment suscité là, une vague d'indignation, mais aussi de solidarité avec la famille dans la communauté. Et plusieurs manifestations, vigiles, rassemblements ont lieu dans les jours qui ont suivi. Évidemment à Saluit même, mais aussi à Koudjouak et dans d'autres localités, puis même jusqu'au Nunavut.
Oui, ben j'imagine que les gens sont allés manifester là où il y a des bureaux publics, là,
des bureaux de police, ou des cours municipales, par exemple.
Oui, c'est ça.
Il y a une campagne de financement participatif qui a aussi été organisée pour aider la famille à payer les frais de déplacement là, pour aller rejoindre Garnett Papigaktuk à Montréal, où il était hospitalisé. Le ministre fédéral des Relations autochtones, Gary Anandasangari, affirme qu'il s'agit d'un exemple de racisme systémique dont sont victimes les peuples autochtones dans le système judiciaire. Je rappelle que depuis 2017, il y a 15 personnes qui sont mortes et 11 autres ont subi des blessures importantes lors de détentions provisoires ou d'interventions policières au Nunavik. Ces événements-là ont conduit au déclenchement de 25 enquêtes du BEI. Durant cette période, ce qui représente environ 6 % de toutes les investigations là, menées par le BEI.
Ah, quand même.
C'est quand même élevé.
Surreprésenté.
Oui, tout à fait, parce que les Inuits du Nunavik ne représentent que 0,15 % de la population du Québec.
Ben oui.
Donc, il y a l'organisation politique de défense des intérêts des Nunavimiut, qui se nomme Makivik, réclame, elle, une réforme des services policiers au Nunavik et une augmentation aussi immédiate du soutien en santé mentale pour la population. C'est vrai qu'il y a plusieurs problématiques sociales qui touchent la région, comme le manque de logement, les traumatismes intergénérationnels, la consommation d'alcool et autres. Mmh. Ces difficultés-là ont évidemment un effet sur le taux de crimes contre la personne dans la région, qui était d'environ de 27 900 pour 100 000 habitants en 2023.
Je connais pas les chiffres moyens, j'imagine que
C'est très élevé parce qu'à type comparatif, pour l'ensemble du Québec, par exemple, en 2022, la proportion de crimes contre la personne était de 1189 pour 100 000 habitants.
Bon,
donc, on passe de
27 900. Là, je suis capable de faire un calcul mental, donc c'est 26-27 fois
beaucoup,
plus.
C'est ça. Et ça, c'est selon les plus récentes données du gouvernement provincial. Évidemment, certaines personnes estiment que les policiers sont pas assez outillés pour faire face à la situation au Nunavik. En 2017, il y avait le coroner Éric Lépine qui avait recommandé d'augmenter la proportion d'Inuits parmi les agents du service de police du Nunavik. Il recommandait l'embauche d'au moins un policier Inuit par communauté ou encore d'un agent civil, ce qui pourrait permettre là, de la désescalade dans les situations plus tendues. Mais il semble toutefois difficile de convaincre les Nunavimiut de s'engager auprès du SPN. Actuellement, il y a seulement 2 agents sur les 136 policiers en poste qui sont Inuits. Donc, le manque de main-d'œuvre force le SPN à recruter, surtout définissant des écoles de police qui a pour conséquence que le taux de roulement est vraiment élevé et que ce sont surtout des policiers inexpérimentés, relativement jeunes, qui arrivent dans des contextes beaucoup plus difficiles que dans d'autres municipalités. Donc, ils arrivent aussi avec une méconnaissance des réalités sociales et des réalités historiques, puis aussi avec certains biais.
Ah oui, forcément.
C'est ça.
Je ne suis pas à l'école de police, mais j'imagine qu'on doit en entendre des pas pires sur les Autochtones, des fois.
Ben, comme dans le reste de la population, de toute façon, ça. De la société. Ultimement, plusieurs recommandent de complètement revoir les services de première ligne puis d'ajouter des ressources psychosociales pour que les interventions policières ne fassent pas toujours appel à l'usage de la force. Mais disons que pour convaincre les Nunavimiut de rejoindre leur rang, le service de police du Nunavik va d'abord devoir regagner la confiance de la population, ce qui n'est pas fait.
Non.
Je termine rapidement sur l'enquête publique du coroner sur la mort d'Abdirahman Abdi, un Canadien d'origine somalienne âgé de 38 ans qui est mort le 25 juillet 2016 au lendemain d'une arrestation musclée. C'était à Ottawa. L'enquête qui a commencé la semaine dernière a pour objectif de permettre à un jury de 5 personnes d'en venir à des recommandations pour éviter qu'un tel événement se reproduise encore. Les jurys vont devoir déterminer si la mort d'Abdirahman Hamdi est due à des causes naturelles, à un accident, à un homicide, à un suicide ou si la cause est indéterminée. L'enquête va aussi se pencher sur d'autres questions le plus larges qui ont été abordées lors du procès, notamment la manière dont M. Abdi a été traité par les policiers. Il va être aussi question de l'usage de la force policière, de compétences interculturelles et de racisme envers les personnes noires. En tout, il y a 25 témoins qui vont venir défiler pendant cette enquête-là, dont les deux policiers qui ont pourchassé M. Hamdi, soit Dave Weir et Daniel Monsion. Daniel Monsion, lui, avait donné plusieurs coups de poing avec des gants renforcés aux jointures à M. Hamdi.
C'est un équipement normal de police ou...
Ça a l'air.
Okay.
Il avait été accusé d'homicide involontaire, de voies de fait graves et d'agression armée, mais il a été reconnu non coupable en 2020. Son témoignage à l'enquête du coroner est d'ailleurs très attendu parce que la défense avait choisi au moment du procès de ne pas le faire témoigner. Chaque témoin va devoir répondre aux questions d'un total de 11 groupes qui participent à l'enquête. Il s'agit de la famille de la victime, du service de police d'Ottawa, l'avocate des policiers, un représentant de Black Action Defense Committee, mais aussi des défenseurs des personnes souffrant de troubles de santé mentale. Mm-hmm. Je rappelle que lorsqu'une personne meurt en raison d'une blessure subie sous la garde d'un policier, il y a une enquête du coroner qui est obligatoire. Dans le cas de M. Hamdi, il a fallu attendre 8 ans parce que le coroner peut pas déclencher cette enquête-là tant que les autres enquêtes sont pas terminées puis que toutes les autres poursuites ont été menées et que les délais d'appel ont été expirés. L'enquête devrait durer une vingtaine de jours, à peu près, là, 21 jours, puis fait qu'on va sûrement vous tenir au courant là, des conclusions.
Ben merci Marie-Ève. Donc, dans quelques secondes, on s'en va complètement ailleurs, de l'autre côté de l'océan. Toujours en compagnie de Marie-Ève dans le studio principal. On n'a pas bougé, donc tu nous as préparé des actualités du Royaume-Uni. J'en profite d'abord pour vous donner des nouvelles fraîches et toujours aussi peu réjouissantes de la Manche, où les traversées se poursuivent malgré un temps de plus en plus froid et orageux. Je commence avec des statistiques récentes. Jusqu'à maintenant, en 2024, selon le ministère britannique de l'Intérieur, plus de 30 000 migrants ont effectué la traversée. 60 personnes y ont laissé leur vie, ce qui constitue un record historique de décès dans la Manche, qui sert de route migratoire maritime depuis 2018, alors qu'avant ça, les traversées de la Manche restaient un phénomène très isolé. Je vais citer librement un coordonnateur d'Utopia 56, une association française qui vient en aide aux personnes exilées. Le chiffre qui nous saute aux yeux depuis quelques mois, c'est qu'une personne décède dans la Manche tous les 5 jours. Le nombre de 30 000 traversées, par contre, n'est pas un record qui lui avait été atteint en 2022 avec 45 000 traversées, puisque suite à la pandémie, alors que la plupart des pays occidentaux n'acceptaient pas de demande d'asile, il y a eu un effet de rattrapage sur toutes les routes migratoires de la planète. Pendant ce temps-là, tant du côté français que britannique, on continue de traquer les réseaux de passeurs, de les traduire en justice, on saisit du matériel, des embarcations, on condamne des gens. dont un Irakien de 26 ans soupçonné d'être directement impliqué dans l'organisation de 10 000 traversées et d'avoir piloté l'ensemble du réseau depuis sa cellule de prison en France.
Aïe, aïe.
De l'autre côté, le nouveau gouvernement, toujours nouveau gouvernement, on peut le dire, de Keir Starmer, a annoncé début novembre la création d'un fonds de 90 millions d'euros pour la lutte contre les réseaux de passeurs, ce qui vient en gros doubler le financement de la surveillance sur la Manche par les Britanniques. On prévoit investir dans la formation d'une centaine de nouveaux enquêteurs et dans les technologies de sécurité, évidemment. Là où le travailliste tombe un peu dans la démagogie et le populisme dangereux, c'est quand il compare l'immigration clandestine au terrorisme, qualifiant le phénomène de menace grave à la sécurité et à la cohésion nationale. Il répète constamment ces raccourcis, ces amalgames très douteux qui m'apparaissent plutôt irresponsables dans le contexte d'une société où très récemment, l'extrême droite et leurs alliés se sont déchaînés partout à travers le pays dans un déferlement inouï de violence et pas qu'une seule fois. On s'en est pris aux demandeurs d'asile, à leurs lieux d'hébergement, aux personnes qui leur viennent en aide, aux locaux qui abritent les associations. Mais le premier ministre semble bien déterminé à utiliser le vocabulaire et la rhétorique des tabloïds britanniques les plus jaunes. Sur ce, Marie-Ève, avant d'empiéter davantage sur les sujets dont tu nous as préparés, je pense que c'est mieux que je te laisse la parole.
Ben, c'est pas un empiètement, tu mettrais bien la table, parce que justement, avec l'explosion des traversées dans la Manche, la gestion des demandes d'asile en attente constitue un des plus grands défis là, du nouveau gouvernement travailliste. En juin 2024, selon le Home Office, qui est l'équivalent du ministère de l'Intérieur, près de 86 000 nouvelles demandes d'asile étaient encore en cours d'examen. C'est énorme. Même si c'est beaucoup moins que l'année passée, il faut le dire, mais il faut quand même ajouter là, les milliers de personnes qui sont arrivées depuis, parce que ça, c'était les chiffres de juin. Il y a plusieurs ONG qui s'inquiètent de la gestion des demandes d'asile, particulièrement du fait que le gouvernement britannique s'en remettrait à l'intelligence artificielle pour départager les candidatures.
Ça, c'est... En tout cas, je te laisse aller, là, mais je n'en pense pas moins.
C'est que vers 2019-2020, pour faire face à l'accumulation et au retard déjà dans le traitement des demandes, le gouvernement britannique aurait commencé à utiliser un logiciel appelé EPIC pour identification, priorisation des affaires d'immigration, dans le but de faciliter là, la prise de décision concernant les migrants et les demandeurs d'asile susceptibles d'être expulsés. Comment ça marche?
Ben oui.
Ben, ça analyse des dizaines de données comme l'état de santé, l'ethnicité, le dossier judiciaire. Le programme digère toutes ces informations-là puis émet une recommandation sur un petit bout de papier, là, au sujet de l'individu.
C'est exactement comme ça que je l'imaginais.
C'est ça, en faveur ou non de son expulsion. Les organisations de défense des droits y voient plusieurs problèmes, Simon, j'imagine. Comme la confidentialité des données récoltées, en particulier celles qui touchent à la santé. Mais aussi et surtout, elle dénonce un manque de transparence. Le groupe militant Privacy International a mis plus d'un an à obtenir là, des informations, un droit qui est pourtant inscrit dans la loi au Royaume-Uni. L'ONG s'inquiète aussi de la manière dont ces informations-là sont utilisées. Un exemple par rapport à la santé, l'ancien ministre conservateur de l'Intérieur estimait que certains demandeurs d'asile faisaient semblant d'avoir des idées suicidaires pour influencer la décision en leur faveur.
C'est sûr qu'il n'y a aucune raison d'avoir des idées suicidaires quand tu as quitté ton pays.
Non.
En tout cas.
Et donc là, ben, la question qui se pose, c'est est-ce que l'algorithme peut être modifié suivant les positions du gouvernement? Des études ont aussi déjà montré que les outils d'analyse présentent des biais discriminatoires similaires à ceux qui existent dans la société.
Ben oui.
En plus, ben, y a des erreurs qui ont pu être constatées, là, notamment sur l'identité des personnes. Officiellement, l'algorithme émet, comme je disais, une recommandation qui est supposée faciliter le travail des officiers d'immigration.
On va dire l'accélérer. Hein.
Mais dans les faits, comme ils font face à un nombre de demandes très élevé, ils n'ont pas toujours les moyens de les traiter en profondeur. Et donc, bien sûr, il est possible de rejeter la recommandation du logiciel, mais le logiciel, dans ce temps-là, il réclame une justification détaillée. Bref, il est beaucoup plus simple pour les employés du ministère de juste suivre les recommandations du logiciel. Puis un autre des problèmes, c'est que les demandeurs d'asile ne sont pas toujours avertis que la technologie a été utilisée, ce qui limite beaucoup leurs possibilités de recours.
C'est de la science-fiction, mais c'est comme un mauvais film.
C'est
psychotronique,
film.
Là, je trouve.
Et bon, sur le terrain, ben, les ONG qui viennent en aide aux personnes migrantes s'inquiètent aussi des problèmes de logement et parlent même d'une situation d'urgence. Entre avril 2023 et mars 2024, c'est-à-dire sur un an, il y a près de 2000 personnes qui avaient obtenu le statut de réfugié au Royaume-Uni qui ont été hébergées par des associations, donc pas dans le réseau de l'État, contre un peu moins de 1000 un an plus tôt. Ça, c'est selon les chiffres du réseau No Accommodation, qui regroupe là plus d'une centaine d'organisations. C'est le nombre le plus élevé jamais enregistré. La proportion de réfugiés parmi les personnes prises en charge par le réseau est passée de 26 % à 47 % en un an. Pour adapter leur aide, les organisations membres du réseau ont ouvert des nouveaux refuges, des refuges de nuit, ont distribué des sacs de couchage ou des tentes aux personnes qui pouvaient pas être hébergées faute de place. Et ces personnes-là, pas hébergées, plus de 4150 personnes, un chiffre en hausse de 83 % sur un an, selon le réseau. Mais le réseau précise aussi qu'il s'agit sans doute d'une sous-estimation importante du réel niveau d'individus ayant besoin d'être hébergés. Les associations attribuent cette situation-là disent que c'est une conséquence directe des politique hostile du précédent gouvernement en matière d'asile et d'immigration. Je peux donner un exemple qui ne doit pas aider, c'est qu'à l'été 2023, l'ancien gouvernement conservateur a adopté une réforme qui ne laisse que 28 jours aux personnes ayant obtenu le statut de réfugié pour quitter le logement mis à leur disposition, voire seulement 7 dans certains cas, puis avant c'était 56 jours. Donc on est passé de 3 mois à 1 mois. Il y a la saturation des centres d'hébergement de l'État qui a des conséquences aussi particulièrement difficiles pour les femmes. Selon le récent rapport des associations Rape Crisis England and Wales, puis l'autre association qui est IMCAN, les femmes victimes de violences sexuelles dans leur pays ou durant leur parcours migratoire se retrouvent à partager des logements mixtes, y compris des chambres avec des hommes qu'elles connaissent même pas. Tout ça dans des conditions de vie médiocres et sans aucun soutien. Elles sont complètement abandonnées à leur sort. Et autre conséquence des conditions de vie difficiles qui inquiètent les associations, c'est le nombre de décès. On parlait des suicides, notamment, ouais. De demandeurs d'asile pris en charge par l'État qui a augmenté. D'après des chiffres révélés par The Guardian, entre janvier et juin, 28 migrants sont décédés dans les hébergements pour demandeurs d'asile, contre 13 sur les 6 premiers mois de l'année passée. Sur les 217 décès qui ont été recensés depuis 2016, 189, c'est-à-dire 87 % ont eu lieu entre janvier 2024 et juin 2024. Ça veut dire que la situation se détériore.
Ce sont des suicides?
Non, c'est des morts. Entre autres des suicides, mais pas que.
OK.
Et puis, si j'ai le temps de terminer, je terminerai en vous donnant des nouvelles du BB Stockholm, cette prison flottante qui hébergeait sous surveillance plusieurs centaines de demandeurs d'asile. Eh bien, après 15 mois d'utilisation chaotique, c'est le moins qu'on puisse dire, les autorités britanniques ont fini par la vider. Donc, en l'espace d'un mois, ce sont près de 400 demandeurs d'asile qui ont été évacués. C'était une promesse du gouvernement travailliste de l'arrêter en janvier 2025. Mm-hmm. D'ici janvier 2025. Si on l'avait poursuivi en 2025, ça aurait coûté 36 millions de dollars de plus. Et si on avait poursuivi sur 10 ans, ça aurait coûté 13 milliards de dollars, un autre argent qu'on aurait pu mettre ailleurs.
Ben oui, au service, entre autres.
Oui, c'est ça. Et selon le Home Office, les exilés, qui étaient tous des hommes, ont été transférés dans des centres d'accueil à travers le Royaume-Uni. La majorité aurait aujourd'hui obtenu l'asile. C'est une bonne nouvelle en soi, mais en même temps, on se demande où est-ce que ces demandeurs d'asile-là vont loger dans quelques semaines. Parce que, comme je vous le disais,
il y a 28 jours, là.
Exactement. Fait que...
Je sais pas quel est l'état. Je sais que c'est extrêmement dispendieux, le logement au Royaume-Uni. Je sais pas s'il y a de la disponibilité ou...
Non, c'est la crise. Ils vivent au Royaume-Uni. Il y a la même crise de logement qu'ici ou ailleurs, là. Il n'y en a pas de logement, là, abordable.
C'est mission impossible. Faudrait mettre l'intelligence artificielle là-dessus. Ça aiderait pas mal. Bon, je dis des niaiseries. Je pense qu'on va aller en musique avec Hildegarde.
Easy evening for your last trail. Sip on my lap, baby, you are coming clean. Dark
Le duo féminin montréalais Hildegarde, je vais l'appeler H-I-L-D-E-G-A-R-D, composé de Uri et de Elena Delande, qui ont chacune leur carrière solo en parallèle. Une pièce dont le titre est un excellent exercice de prononciation en anglais, Pour Your Heart Out, qui est assez introspective, comme le reste de l'album d'ailleurs, album qui s'intitule Jour 1596, qui est paru en octobre dernier sur étiquette locale Chivi Chivi. Et il figure en bonne position, je crois, en cinquième position du palmarès local de Choc. Mathieu est de retour devant moi, mais avant qu'il nous donne des nouvelles d'Amérique latine, on fait un détour par Paris.
Paris,
où se sont déroulés, je ne sais pas si vous le saviez, mais des Jeux olympiques.
Des JO
et des JP l'été dernier.
Exact.
Que ce soit avant ou pendant les Jeux, on a pu assister à des opérations concertées et à grande échelle de nettoyage social. On est maintenant dans l'après et l'heure est au bilan plutôt amer. Le collectif bien nommé Le Revers de la Médaille, qui regroupe une centaine d'associations qui interviennent auprès des personnes en situation d'itinérance ou en habitat précaire, a publié début novembre son rapport final qui porte sur l'impact des Jeux sur ces populations dans la région parisienne. Quelques jours avant, le collectif manifestait au pied de la Tour Eiffel en scandant le slogan « J.O. 20 000 expulsés », tout en projetant ce même slogan sur le célèbre monument. Le Revers de la Médaille annonçait en même temps que c'était sa dernière action, donc je présume qu'avec la publication du rapport, c'en est maintenant terminé du Revers de la Médaille. Par contre, le rapport est vraiment accablant, donc on va probablement en parler encore longtemps, surtout en France. C'est un document assez volumineux, une soixantaine de pages écrites assez petit, rempli de témoignages, de statistiques. Ça se lit pas en 15 minutes.
Oh oui, c'est clair.
Des analyses, des photos. On en profite pour décerner au comité organisateur de Paris 2024 les trois médailles suivantes. La médaille d'or du social washing, la médaille d'argent du nettoyage social et celle de bronze du déni démocratique. Donc, je ne savais pas trop comment on différenciait le social washing et le nettoyage social.
Ben oui, bonne question.
Ben, j'ai fini par comprendre. Social washing, c'est dans le même esprit que pink washing ou green washing. Okay. Donc, c'est-à-dire qu'on publicise des principes nobles sans réelles mesures concrètes. On se pète les bretelles avec des petites mesurettes insignifiantes. Par exemple, le fait que les autorités se soient vantées de la création de 256 places pour grands précaires.
256, ouh!
Ouais. Et on est vraiment dans du jargon franco-français, le grand précaire. Alors
mais des places de quoi?
D'hébergement. Oui, permanente, oui.
Oui, bien permanent, on verra.
Oui, c'est ça, ouais.
Alors, tout ça qu'on recense, au moins 3500 personnes en situation d'itinérance à Paris. Le nettoyage social, c'est le nettoyage social en tant que tel, donc contrairement au social washing, qui est une volonté marketing d'embellir la réalité pour se donner bonne réputation. Donc, c'est les évacuations de campements, de squats, des hôtels sociaux dont on parlait, qui souvent abritaient des demandeurs d'asile et des personnes réfugiées, beaucoup de femmes, entre autres, dans ces hôtels sociaux. On parle des délocalisations forcées, souvent très loin de Paris. Entre avril et septembre 2024, il y a eu 260 lieux de vie informelle qui ont été démantelés dans la région. C'est de 2 à 3 fois plus que la moyenne des années précédentes. Record historique d'expulsion de mineurs aussi. On parle... plein d'affaires d'aménagement physique dissuasif temporaire et permanent pour éviter le retour de campements fraîchement démantelés, de bâtiments qui ont été évacués, mais plutôt que de servir à d'autres choses, qui ont été tout simplement barricadés et rendus impossibles d'accès. Et pour la troisième médaille, celle du déni démocratique, on mentionne la volonté ferme de réduire au silence les critiques d'individus, de médias, mais surtout d'associations par la surveillance et la répression, notamment par un recours sans précédent aux détentions dites préventives de personnes militantes. Alors, comme je disais, gros rapport dont le titre est simplement « Rapport final » et qu'on trouve dans son entièreté sur lerevers-de-la-médaille.fr. Plusieurs articles de presse proposent aussi des résumés, évidemment. Donc, Mathieu, on revient, on traverse l'Atlantique dans la direction opposée.
Oui, vers le sud, d'ailleurs.
Latine, donc.
Le sud latin, oui, tout à fait. Donc, on commence avec l'Uruguay. Le candidat de l'opposition de gauche à la présidentielle uruguayenne, Yamundo Orsi, a remporté dimanche dernier le second tour du scrutin, une victoire marquant le retour au pouvoir de la gauche de l'emblématique ex-président José Mujica, dit Pepe, qui a 89 ans maintenant, mais qui a été actif dans la campagne. Donc, le candidat de gauche a battu son adversaire de centre-droit, Alvaro Delgado.
On va avoir une belle relation avec Buenos Aires.
Oui, entre autres, oui, tout à fait, avec Washington aussi. Ouais. Si l'Uruguay affiche un revenu par habitant relativement élevé, ainsi que des niveaux de pauvreté et d'inégalités moindres que le reste de l'Amérique du Sud, l'emploi et la sécurité ont été placés au centre des préoccupations des 3,4 millions d'habitants du pays. Et c'est la gauche, mais c'est pas comme Pépé il y a 10-15 ans, c'est quand même plus centre-gauche comme gauche actuellement. Okay. Des élections législatives concomitantes au premier tour ont vu le Frente Amplio, qui est le parti de gauche, remporter la majorité des sièges au Sénat et un peu moins que la moitié des sièges à la Chambre des députés.
D'accord.
Au Mexique, une caravane de quelques 1500 migrants est partie de Tapachula la semaine passée dans le sud du Mexique, près du Guatemala, pour entrer aux États-Unis avant l'investiture du nouveau président américain Donald Trump et l'élimination envisagée de l'application CBP, qui permet aux gens de prendre rendez-vous là avant d'arriver à la frontière.
En ligne, là, oui.
En ligne, ça. Exactement. Les migrants par téléphone, là, ouais. Les migrants se réunissent depuis plusieurs années en cortège de plusieurs centaines de personnes pour demander aux autorités mexicaines des documents de transit. Ces caravanes avaient connu, faut s'en rappeler, un pic de mobilisation en 2018 pendant le premier mandat de Donald Trump. Fait qu'on verra ce qui va se passer pour les prochains mois.
Je prévois un deuxième pic.
OK. Toujours au Mexique, le Centre des droits humains Fray Bartolomé de San Cristobal de las Casas condamne l'exécution du défenseur des droits humains et prêtre Marcelo Pérez Pérez. Le 20 octobre dernier, le prêtre Maya Tzotzil, défenseur des droits humains, qui s'est consacré pendant des années à la lutte pour la vie du peuple et à la construction de la paix au Chiapas, a été assassiné. Le père Pérez a été l'objet de menaces et d'attaques constantes de la part de groupes criminels organisés contre lesquels la Commission interaméricaine des droits de l'homme avait ordonné à l'État mexicain de mettre en œuvre des mesures de protection et de précaution en sa faveur depuis 2015. Loin de sa protection, l'État mexicain l'a criminalisé, l'a accusé et l'a persécuté judiciairement avec des mandats d'arrêt, entre autres. L'exécution du défenseur Pérez intervient dans un contexte de grave escalade de la violence contre les citoyens de toutes les régions du Chiapas dans le cadre de la stratégie de saisie violente du territoire national, nécessaire étape dans l'actuelle reconfiguration économique de l'État mexicain.
Donc c'est un défenseur de droits des peuples autochtones et de l'environnement?
Oui, il est autochtone lui-même, c'est un prêtre, mais des droits sociaux, des droits En général?
Oui,
exactement.
Okay.
Qui a été assassiné. Donc, parmi d'autres, malheureusement, au Mexique et en Amérique latine dans les derniers mois. Sinon, au Salvador, on continue dans la répression. Bien que le tribunal ayant présidé le procès des 5 défenseurs de l'eau du Salvador ait rejeté les fausses accusations portées contre eux, le procureur de l'État fait appel et refuse de reconnaître le verdict. Cela relève d'une décision purement politique dans le pays de Nayib Bukele, le dictateur le plus cool de la planète, entre guillemets. Il s'agit d'accusations qui violent les accords...
Non, c'est le prince en Arabie Saoudite.
Le plus cool des dictateurs, ouais, des tyrans. Il s'agit d'accusations qui violent les accords de paix de 1992 et la loi de réconciliation nationale. Donc, le 18 octobre dernier, Miguel Gámez, Alejandro García, Pedro Rivas Lénez, Antonio Pacheco et Saul Rivas Ortega ont été tous innocentés du chef d'accusation du meurtre d'une femme en 1989 pendant la guerre civile. Ces gens-là sont des fervents militants de la défense de l'eau dans le pays avec l'Association de développement économique et social. Ils luttaient contre l'installation de mines de forage pour l'extraction de métaux précieux au pays. Leurs revendications avaient pris une telle ampleur qu'elles ont fini par avoir gain de cause. Je vous l'explique dans 2 secondes. Leur lutte était d'autant plus dérangeante que la défense de ces eaux implique principalement de grandes compagnies minières canadiennes qui occupent les zones au Salvador.
Tiens donc.
Il faut savoir que l'intention du gouvernement salvadorien est de revenir sur l'interdiction nationale de l'exploitation minière décidée en 2017 suite aux luttes. Fait que depuis 2017, il n'y a plus d'exploitation minière au Salvador, de nouvelles exploitations minières. On voit la volonté de persécution des mouvements de défense des eaux et plus généralement des mouvements sociaux dans le pays. Sous couvert d'un état d'exception, Nayib Bukele, là, le plus cool, bafoue les droits inaliénables sous simple motif de profit au détriment du peuple et de l'environnement. Donc, il va y avoir un appel dans le cadre du procès de ces 5 défenseurs de l'eau, qu'on appelle, mais ils ont gagné pour l'instant. Mais ils sont accusés d'un meurtre en 89, c'est vraiment bizarre comme histoire.
Mais c'est
là.
Ça, je comprends pas trop.
Non, j'ai pas pu trouver les... C'était à l'époque, là, ben, c'était des anciens guerriers roses, j'imagine, ces gens-là, c'est souvent le cas là, en Amérique centrale, les militants, mais c'est vraiment bizarre comme histoire. Là.
Que ça retentisse comme autant d'années plus tard, puis...
Mais
il y avait purgé une peine à l'époque, j'imagine.
Non, ils ont été accusés récemment de ça, là, c'est ça.
Ah, mon Dieu.
C'est ça qui est particulier. Ouais,
ben, c'est peut-être des tactiques d'intimidation judiciaire, là,
ouais,
tu sais,
des poursuites de Bayon, mais puissance 1000, là.
Ben, c'est pas mal ça que je vous racontais, là, avec le dictateur le plus cool.
Ouais.
On change de dernier pays. Cela fait maintenant 2 mois que les grèves s'enchaînent au Pérou pour réclamer des mesures concrètes contre les extorsions et le crime organisé, toujours plus meurtrier dans le pays. Les syndicats des transporteurs se sont mobilisés à travers le pays en premier temps. Au fur et à mesure, les syndicats des commerçants, des taxis, les étudiants se sont ajoutés aussi aux travailleuses, travailleurs du sexe et aux militants de la communauté LGBTQIA+. Une grande partie du territoire est sous l'autorité des organisations criminelles. Celles-ci extorquent les commerces et services en échange de leur sécurité. Tous doivent accepter de se soumettre à les payer pour espérer continuer leurs activités. Au Pérou, plus de 70% de l'économie fonctionne à travers le marché informel. Ces commerces sont vulnérables à l'extorsion, notamment parce que la majorité des paiements se font en espèces. Fait qu'autant les services sexuels, n'importe quoi, tout est contrôlé et il y a vraiment une vague d'extorsion importante. L'adoption de la loi 3208 en juillet dernier a été critiquée depuis le début. En redéfinissant le crime organisé, elle limite son application à des crimes passibles de plus de 6 ans de prison, en excluant entre autres les extorsions, le trafic d'organes ou la corruption. Le gouvernement a aussi modifié une autre loi qui définit les règles et conditions de jugement et d'arrestation face au crime organisé, rendant toujours plus obscures les actions pour lutter contre ces organisations. Il y a aussi une proposition de loi sur le terrorisme urbain, qui est une mesure superficielle qui laisse une large marge d'interprétation. En criminalisant le trouble public, cette loi peut être utilisée pour empêcher les protestations, pardon. Ajouter à un autre décret voté en décembre dernier, où le blocage des routes devient passible d'emprisonnement, le gouvernement veut éviter toute contestation populaire. Pardon.
Mais sous prétexte de terrorisme urbain, c'est un peu confus, ce truc-là.
Le Pérou, ça va vraiment pas bien. Là. Il y a eu un espèce de... Le président qui était élu a été renversé, a été arrêté, est en prison, est accusé de corruption. Celle qui l'a remplacé a l'approche des milieux mafieux à la fois.
C'est ça.
Et aussi veut absolument étouffer toute contestation parce qu'elle n'est pas légitime.
C'est
parce
ça.
Elle a remplacé l'autre.
Mais le prétexte, c'est quand même... Le lien entre les deux est quand même... pas évident. En tout cas, c'est tordu. Là.
C'est tordu. C'est un texte d'Alter Québec dont je me suis inspiré, donc un petit côté aussi dénonciateur en même temps, c'est sûr.
Okay.
Mais juste pour... Je termine là-dessus. Dès la première grève, l'armée a été mobilisée pour assurer l'ordre des manifestations et l'état d'urgence a été déclaré à Lima. Des tanks militaires ont été déployés dans les rues, donc depuis quelques semaines. La présidente Boluarte n'hésite pas à faire l'amalgame entre sicarios, ça c'est les mafieux, ouais, manifestants et personnes corrompues qui veulent... qui cherchent à lui voler le pouvoir. En faisant le parallèle avec les grèves de 2022-2023, quand il y a eu l'espèce de coup d'État, elle maintient son attitude sourde et autoritaire. Et cette attitude s'accompagne dans un discours xénophobe, évidemment, rejetant notamment la fausse sur les déplacés vénézuéliens, en exagérant leur présence au sein des bandes criminelles et mafieuses au Pérou. Donc, je rappelle que Pedro Castillo a été tassé, arrêté et mis en prison et est en prison depuis. Et que celle qui l'a remplacé, ben c'est ça, c'est non seulement a fait face à des manifestations, de la colère entre autres des Autochtones, parce que Castillo c'est un Autochtone, mais aussi de tous les secteurs d'économie qui se font vider les poches par... par les groupes mafieux.
Ça manque de cohérence, cette présidence. Là, on amalgame tout ensemble.
Ça fait deux ans. Ça va faire deux ans en décembre. Oui,
ouais, pratiquement par coup d'État judiciaire.
Oui, oui. Puis répression et surtout association avec toutes les...
Les mafieux.
Les mafieux.
Mais c'est ça. C'est que d'un côté, elle criminalise la rue, pardon. Puis de l'autre, elle donne plus de lousse, finalement. Elle diminue les charges.
Contre les groupes criminels.
Contre les groupes mafieux.
Puis elle accuse tout le monde d'être corrompu, sauf elle,
c'est
évidemment.
C'est ça.
Voilà, ça va bien au Pérou.
Finalement, c'est pas si pire ici. Enfin, bref, on va aller à l'agenda dans quelques secondes. On commence avec une conférence qui aura lieu la semaine prochaine qui s'appelle « Peut-on encore se parler? » et qui va essayer de décortiquer l'état des divisions actuelles dans nos sociétés de plus en plus virtuelles où la polarisation est exacerbée, le ton pas toujours très aimable, les informations pas toujours fiables. Bref, est-on encore capable de débattre sereinement et respectueusement en 2024? Les conférenciers seront des professeurs de l'UQAM et de l'UDM, soit Alexandre Coutan, Stéphanie Yates et Hugo Gilbert Tremblay. Ça a lieu le mardi 3 décembre au Cœur des sciences de l'UQAM à 18h30. Dépendamment si vous êtes étudiant ou non, ça coûte 5 ou 10 $. Et on réserve en ligne sur cœurdesciences.uqam.ca/événements. Je rappelle le titre de la conférence. Peut-on encore se parler? Hein? Nous, on se parle, on y arrive.
À trois, on est correct.
À trois, ça va. C'est quand qu'on s'en va sur les réseaux sociaux. Dans les médias généraux.
On est-tu bien dans notre entre-soi?
Oui, dans notre chambre d'écho, là. Ça va. Maintenant, j'ai deux pétitions en ligne à vous suggérer. La première, c'est une pétition de l'Assemblée nationale qui va comme suit. Accès aux services en francisation pour les nouveaux arrivants au Québec. On le sait, avec tous les changements et les coupes survenues récemment, les services de francisation ont été passablement malmenés, rendant leur accès aux nouveaux arrivants de plus en plus difficile, ce qui est très paradoxal, sachant qu'au gouvernement du Québec et dans certaines oppositions, on accuse continuellement l'immigration d'être une menace à la culture québécoise et à la langue française. Donc, si c'est un enjeu qui vous touche, allez sur asnat.qc.ca, vous trouverez facilement la pétition « Accès aux services en francisation pour les nouveaux arrivants au Québec ». La deuxième pétition, une initiative de Mouvement pour une paix juste, concerne le Fonds de solidarité FTQ, qui a investi environ 135 millions dans des entreprises considérées par l'ONU et par Action Research on State Violence comme étant associées à des crimes de guerre liés à l'occupation illégale des territoires palestiniens. On parle de Motorola, Chevron, Sony, Cisco, Exxon, HP, ainsi que la firme de génie montréalaise WSP Global, qui est partenaire dans des projets d'infrastructure israéliens. Les pétitions ainsi que la liste très détaillée, très précise des montants investis dans chaque compagnie se trouvent sur actionnetwork.org. Le titre complet de la pétition est « Le Fonds de solidarité FTQ a investi plus de 130 millions de dollars dans les crimes de guerre et potentiellement le génocide ».
Fait que McGill et le Fonds de solidarité, même combat, hein, finalement.
À peu près le même combat, discours pas toujours pareil.
Caisse de dépôt et placement aussi, ouais, c'est ça.
Le Fonds de solidarité reste silencieux alors que McGill revendique son droit d'investir.
Mais ils dénoncent pas non plus leurs propres agissements, hein,
non,
c'est ça?
Non, pas du tout.
Les médias n'ont pas parlé, ouais, quand même. Ouais.
Ben non, on parle des casseurs.
Oui, c'est vrai. Oui, oui, palais des des congrès, oui.
C'est ça. Autre suggestion à l'agenda, on reste au Proche-Orient, ce n'est ni une pétition, ni une action-activité, mais un site. Site web contenant plusieurs textes très intéressants. Le nom du site est ARA36 et il est en pleine évolution. On y trouve articles, réflexions, analyses, témoignages. Seulement 10 textes pour l'instant, mais ça a été lancé au mois d'août. Alors, au fur et à mesure, il y aura de plus en plus de contenu. ARA veut dire quartier en arabe et le numéro 36 fait référence à 1936, l'année de la grande révolte palestinienne. Donc, ARA 36 se définit comme une publication qui veut faire connaître le quotidien des jeunes palestiniens à la francophonie. L'URL du site est ara.substack.com. Maintenant, une récente sortie du très prolifique et polyphique bédéiste Joe Sacco. Je ne sais pas si on peut l'appeler un bédéiste de guerre. Il a publié durant sa carrière plusieurs romans graphiques sur la Palestine, l'Irak, la Bosnie, le Caucase, entre autres. Il récidive encore une fois sur la Palestine, sa quatrième ou cinquième publication qui porte sur la région, qui, dans la traduction française, s'intitule tout simplement « Guerre à Gaza ». C'est aux éditions Futuropolis. J'ai regardé différents sites de librairies. C'est un livre court, 32 pages seulement. Il est en vente pas mal partout, aux alentours de 13 ou 14 $. Et si vous ne connaissez pas l'œuvre de M. Sacco, n'hésitez pas à y plonger tête première. Je termine cet agenda de manière un peu plus festive avec le lancement d'une compilation musicale qui célèbre les 25 ans de Rise Up. Ce sera officiellement lancé ce samedi 30 novembre, exactement 25 ans après la première journée des légendaires manifestations contre l'OMC à Seattle en 1999, au moment où Rise Up a été créé comme outil de communication complètement indépendant qui permettait de se protéger de la surveillance informatique. Comme je disais, c'est ce samedi de midi à 18h à La Chope, 1800 Le Tourneux dans Hochelaga-Maisonneuve. Il y aura projection du film This is what democracy looks like. La compilation sera disponible à partir de cette date sur music.riseup.net. Avant de conclure cette édition des Apatrides anonymes, petit hommage au peuple maori de la soi-disant Nouvelle-Zélande, communauté qui s'exprime beaucoup, qui se bat, qui est culturellement très vivante et expressive. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y a eu des décennies de traités bafoués, d'humiliations, de confiscations foncières, mais il y a quand même eu d'énormes progrès aux alentours des années 70, allant jusqu'à la création d'une université par et pour les Maoris. Le climat actuel est pas mal différent au nom d'une supposée justice sociale et surtout parce que le gouvernement néo-zélandais est minoritaire et a promis n'importe quoi aux franges les plus conservatrices de la coalition qu'il dirige. Il a voté pour des projets de loi qui visent à édulcorer les droits concédés aux Maoris au fil du temps, sous prétexte que ce seraient des privilèges qui discrimineraient le néo-zélandais moyen. Ce qui a provoqué la colère des Maoris et de leurs alliés à travers l'archipel. Il y a eu des manifestations monstres et même à l'intérieur de l'enceinte du Parlement. Il y a eu des députés Maoris et des membres de la population qui étaient dans les tribunes, qui, entre autres actions, ont entonné des hakas, cette danse et chant de guerre explosif. Il y a des vidéos vraiment spectaculaires en ligne. Cherchez Maori Haka Parlement. Ça va vous faire du bien de voir ça, je pense. Et ça nous change du très mononcle de plus en plus insupportable Salon Bleu. Salon rouge, parce que Salon bleu est en rénovation. Alors, on souhaite bon combat au peuple maori contre ces tentatives mesquines de lui retirer des droits durement acquis. Je vous laisse nos coordonnées, parce que c'est déjà la fin de l'émission. Donc, évidemment, tous nos épisodes sont en rattrapage sur choc.ca, ainsi que dans notre site apatridesanonymes.info. On a un courriel apatridesanonymes@resist.ca. On est diffusé dans le sud de l'île de Vancouver sur Radio Victoria au 107.9 FM. Bonjour à tous les Victoriens et Victoriennes. J'ai vérifié, c'est vraiment ça le gentilé. Merci à Marie-Ève, merci à Mathieu. Votre recherche, synthèse, on en apprend toujours beaucoup avec vous.
Ben oui, toi ben aussi, avec Simon. Toi aussi, ben oui, avec ton écoute, animation, tes mini-micros, tes tonnes. Écoute, merveilleux. L'agenda, super aujourd'hui, hein?
Ouais.
Bon, moi, je ne sais plus quoi dire. Je vais continuer, je vais lire mon texte.
Oui, garde les yeux sur ta feuille.
On se retrouve dans deux semaines et ça nous mène au jeudi 12 décembre en direct des studios de Choc à 18h30. Ce sera notre dernière émission de 2024, édition régulière avant la pause des fêtes, quoique peut-être on aura une entrevue à vous présenter.
À confirmer, c'est ça.
Ouais. À confirmer, donc ce sera une belle surprise ou pas de surprise.
Oui, c'est ça.
Marie-Ève fait plus un petit signe de non.
Ah, moi j'en veux une entrevue.
Ah non, mais d'accord, on va essayer d'en avoir une, sinon ben, je ferai une entrevue avec Marie-Ève ou Mathieu. Ouais,
à trois.
Bon, on se laisse en musique avec la pièce World Aid. World Aid, JRCG, ou au long Justin R. Cruz Gallego, qui est batteur-chanteur d'un septuor basé à Tacoma, Washington, et signé sur Sub Pop, un projet qu'on dit incorporant punk, musique actuelle et influence latine que je n'ai pas trop senti, mais c'est très bon quand même. On écoute donc GRCG, la pièce finale World Eye de l'album Grim Iconic Sadistic Mantra, paru un peu plus tôt en 2024. Alors voilà, Mathieu, Marie-Ève et surtout tout le monde qui nous écoute, bonne soirée, portez-vous bien.
Oui, merci Simon, et à dans deux semaines tout le monde.
À dans deux semaines.